Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Je suis Blaise Chindani Kambala, c'est moi qui suis au micro. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. C'est l'heure de suivre nos informations, mais suivons d'abord les titres. Les autorités territoriales de Djougou fondent leur espoir sur la mise en œuvre effective du programme PDD-RCS. Le commissaire principal Ruffin Mapela, administrateur du territoire, estime que ce programme pourrait consolider les efforts déjà consentis par les différents acteurs pour pacifier la province. Bonne nouvelle pour les habitants de la province de la Lomami. L'office des routes a lancé la réhabilitation de 3 points chauds fortement dégradés sur les tronçons Ngandanjika-Chikui, long d'environ 25 km. Environ 5000 enfants en âge scolaire dans la ville de Bukavu courent le risque de ne pas étudier à cause de la précarité économique au sein de ménages accentués par la guerre. C'est le résultat d'une étude menée sur place. Pour en parler, nous recevons Emina Mwanda Sadi Kangolingodi, le PCA de l'ASBL, initiative Emina Mwanda Plus. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à ce journal de la mi-journée. Les autorités territoriales de Djougou en province de l'Ituri fondent leur espoir sur la mise en œuvre effective du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS. Dans un entretien exclusive accordée à Radio Kapi, le commissaire principal Ruffin Mapela, administrateur du territoire, estime que ce programme pourrait consolider les efforts déjà consentis par les différents acteurs pour pacifier la province. Il salue à cette occasion les groupes armés qui appliquent les recommandations issues de rencontres d'Arou 1 et Arou 2. Ruffin Mapela s'exprime au micro de Jean-Claude Lokidile.
Un premier pas pour nous, le fait que ces jeunes gens-là portaient des armes et acceptent déjà de se rencontrer et de trouver des solutions pour la paix. Nous savons qu'il y a un programme qui est là, c'est le programme de désarmement, de mobilisation qui est là, qui doivent nécessairement aussi travailler pour que ces jeunes gens-là qui ont déjà bénéficié des rencontres, c'est-à-dire Arou 1, Arou 2, qui puissent mettre ces résolutions de ces dialogues-là de Arou 1 et Arou 2 en application. Et nous le savons que nous avons encore un groupe armé qui est en face de nous, qui dérange. On va voir dans toutes les possibilités comment les associer dans cet accord-là. Comme vous le saviez, il y a toujours des problèmes qu'il faut trouver des solutions. Comme les autres groupes armés ont accepté d'adhérer dans ces programmes et de remettre les armes, nous allons continuer à s'appuyer sur ça pour que vraiment la paix revienne totalement dans l'ensemble du territoire.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, la situation sécuritaire et humanitaire dans le territoire de Beni et de Lubero a été au centre d'une séance de travail tenue samedi entre près d'une centaine de responsables des confessions religieuses et le chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge des opérations et renseignements, le général Jacques Kialingoza Nduru, en mission dans la région. L'objectif était d'impliquer toutes les couches de la population, y compris la communauté ecclésiastique, dans la recherche des solutions durables pour le rétablissement de la paix dans ces zones confrontées à une insécurité persistante, notamment les attaques des ADF. Les leaders religieux ont, à cette occasion, appelé le service d'éducation civique et patriotique de l'armée ainsi que le commandement du secteur opérationnel Grand Nord de IFA-RDC à se rapprocher davantage de la population afin de renforcer la relation civilo-militaire, gage d'une paix durable. Sécurité encore. En dépit de quelques incidents d'ordre sécuritaire enregistrés à l'aéroport international de Kisangani-Bangoka, le trafic aérien se poursuit de manière optimale et la sécurité y est assurée efficacement par les forces armées de la RDC. Ces propos sont du commandant de l'aéroport de Bangoka vendredi dernier devant la presse locale. Goda Wamba s'est ainsi exprimé pour couper court aux rumeurs persistantes faisant état de la fermeture de cet aéroport. Il veut également redonner confiance à la population en général et aux voyageurs par avion en particulier afin de se débarrasser de la peur due aux bobards et les réseaux sociaux. Goda Wamba dans ses propos recueillis par Jacques Moukonkole.
Tous les équipements d'aide à la navigation sont en état d'opérationnalité, offrant aux compagnies aériennes les informations nécessaires et suffisantes pour la sécurité des aéronefs et des passagers. Les personnels de la RVA s'engagent formellement et fermement à optimiser les rendements à l'effet de promouvoir et rendre un service public qualitatif et satisfaisant pour vous, nos partenaires et clients de l'aéroport de Kisangani-Bangoka. Ne tombons pas dans ce jeu de nos ennemis qui veulent déstabiliser la RDC. Ne tombons pas dans ce jeu où commencer à diffuser des fausses informations. La réalité est là. Kisangani, l'aéroport est opérationnel à 100%. Donc, une fois de plus, nos vifs remerciements à son excellence, le président de la République, qui a mis à notre disposition un si bel aéroport. Nous avons aujourd'hui, en RDC, la plus belle piste. Tous les pilotes qui descendent ici acclament et disent que nulle part ailleurs, nous n'avons atterri sur une si belle piste. Nous avons l'aérogare inauguré depuis une année, mis à notre disposition. Donc, nous voulons vous rassurer, vous, nos partenaires économiques, nos partenaires qui utilisaient la plateforme aéroportuaire et l'aéroport de Kisangani est à votre disposition. À tout moment, vous serez servi dans la sécurité des personnes et de leurs biens.
Dans la province de Lomami, l'office des routes a lancé la réhabilitation des trois points chauds fortement dégradés sur les tronçons Ngandanji-Kachikoui, long d'environ 25 km. Les travaux ont démarré jeudi dernier grâce au financement du professeur Bruno Miteo Nyenge, député national élu de la circonscription de Ngandanjika. Cette initiative répond aux cris d'alarme des opérateurs économiques confrontés à d'énormes difficultés de circulation sur cette voie stratégique. Des explications avec Esther Ndalafina.
Bourbier, nid de poules et zone impraticable paralysent depuis quelques mois la circulation des véhicules et compliquent à la fois l'approvisionnement en marchandises et l'évacuation des produits agricoles vers Mbujimayi, le centre de consommation. Face à cette situation, les opérateurs économiques de Ngandanjika ont sollicité une intervention urgente. Leur appel a été entendu par le député national, le professeur Bruno Miteo Nyenge, qui finance les travaux à hauteur de 30 000 dollars américains. La première tranche de ce financement a été remise il y a quelques semaines. Sur le terrain, les ingénieurs de l'Office des routes sont à pied d'œuvre. Selon le chef de brigade, les travaux consistent au remblayage des bourbiers et à la réparation des trous les plus critiques. Il signale par ailleurs que les travaux s'effectuent pendant la période pluvieuse et cela risque de prolonger la durée de traitement des points chauds. Cette intervention arrive à un point crucial. De nombreux agriculteurs viennent d'achever leur récolte et se heurtent à d'importantes difficultés pour acheminer leurs produits vers les centres de consommation. La remise en état de ce tronçon doit ainsi faciliter la mobilité des personnes et renforcer la circulation des denrées alimentaires et des produits manufacturés dans la région. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Et puis lancement vendredi à Kananga de la campagne de sensibilisation au paiement de l'impôt foncier dans la province du Kasaï central. C'est le gouverneur de la province qui en a donné le go. Initié par la Direction générale des recettes du Kasaï central, DGRCAC, en collaboration avec les opérateurs économiques de la province, cette campagne couplée au recouvrement ira jusqu'à la fin du mois de mars. Elle vise à informer et sensibiliser la population sur l'importance de l'impôt foncier tout en l'encourageant à sa quitter de ses obligations fiscales. Détail dans ce reportage d'André Katendengalamolomé.
Cette campagne est lancée dans le but de renflouer les trésors publics. Selon Lucien Luchi Kapinga, directeur général de la DGRCAC, le paiement de cet impôt constitue un levier essentiel pour le développement de la province.
Si nous voulons que la province puisse aller de l'avant sur les plans éducationnels, sur les plans infrastructures et consorts, nous devons payer l'impôt foncier. C'est l'impôt foncier qui fait prospérer une province.
Une initiative saluée par la société civile locale. La structure des Bouts Congolais pour le développement durable encourage la population à s'acquitter de l'impôt foncier. Son coordonnateur provincial, Daniel Ntumba-Chimanga, appelle toutefois les autorités à envisager des actions à impact visible avec les recettes issues de cet impôt, estimant que cela permettra de renforcer la confiance de la population.
Ce que nous pouvons aussi demander est de pouvoir canaliser ces fonds, même si c'est un dollar. Il faut aussi commencer à faire quelques actions palpables, ça doit encourager la population à pouvoir payer massivement.
Pour cette campagne, la DGRCAC affirme avoir revu à la baisse les montants à payer afin de permettre à tout le monde de s'acquitter de ses devoirs fiscaux. Kananga, André Katendengala Moulumé, Radio Kapi.
Province du Tanganyika, manifestation ce vendredi des agents de la société Kolingo, une sous-traitance de l'entreprise Manono Lithium dans les territoires de Manono. Ces agents réclament l'application du SMIG fixé à 21 500 francs congolais par jour par le gouvernement au lieu des 13 500 francs congolais par jour comme salaire qu'ils sont en train de percevoir. On écoute les superviseurs des agents de l'entreprise Kolingo dans cet extrait proposé par Paul Mounanga.
Nous nous sommes convenus avec notre chef qu'il allait commencer à nous payer 13 500 francs congolais par jour. Il y a les problèmes des tenues de travail qu'il fallait régler. Donc il fallait acheter des tenues et des jalates à 48 000 francs congolais. C'est ce qui a été fait. Pour mon cas, cela fait 6 mois que je travaille au sein de cette entreprise. Arrivé au mois de janvier, il a fallu payer les agents suivant les SMIG fixés par le gouvernement qui est de 21 500 francs congolais par jour. Le paiement est intervenu le 5 février. Le responsable de l'entreprise a payé quelques personnes suivant les SMIG. Et après les 5, il a encore payé d'autres personnes. Et puis c'est tout. Il a dit qu'il n'y a plus d'argent pour payer suivant les SMIG. Le responsable dit que l'argent qu'il a reçu de sa hiérarchie est insuffisant et c'est là suivant le travail que nous, agents, avons exécuté. Il nous a demandé d'aller continuer de travailler et lundi prochain, il va voir ce qu'il peut faire pour les autres qui sont restés. Mais les agents n'ont voulu rien entendre et ils se sont décidés de manifester.
Au Nord Kivu, la société Virunga Energy fournit désormais jusqu'à 22,5 MW d'électricité à la ville de Goma et ses environs, notamment les territoires de Nirangongo et Rutshuru. L'annonce a été faite par les gestionnaires du parc national de Virunga lors d'un café de presse tenu à Beni vendredi dernier. Selon la cellule de communication du parc, cette progression significative est rendue possible par la mise en service depuis septembre 2025 de la première phase de la centrale hydroélectrique de Rwanguba. Bernadette Nyangi pour les détails.
Le directeur de Virunga Energy, Ephraim Balolé, précise que le premier générateur de Rwanguba, d'une capacité d'environ 15 MW, a été mis en fonction entre août et septembre 2025, venant ainsi renforcer la centrale de Matebe, dont la capacité maximale est d'environ 13 MW. Les travaux du deuxième générateur de Rwanguba se poursuivent et pourraient s'achever d'ici fin 2026, permettant d'ajouter environ 15 MW supplémentaires. À terme, dit-il, la centrale de Rwanguba pourrait ainsi produire entre 28 et 30 MW. Pour Bienvenu Bouende, porte-parole du parc national de Virunga, cette production contribue déjà à stabiliser l'approvisionnement en électricité dans la ville de Goma, la plus peuplée du Nord Kivu. Elle garantit également une alimentation régulière des stations de pompage et de la régie des eaux, essentielles pour la distribution d'eau potable. À ce jour, la société Virunga SARL a raccordé environ 40 000 clients, dont 2 000 entreprises. L'Alliance Virunga affirme avoir permis la création de près de 20 000 emplois au cours des 10 dernières années grâce à ses activités énergétiques et de développement local.
Restons au Nord Kivu, l'organisation Action pour la protection de la femme, de l'enfant et de l'environnement au Congo, APROFEC, a lancé vendredi à Beni le projet Amani Kwetu, axé sur la réinsertion communautaire et l'autonomisation de la femme pour renforcer la résilience communautaire. D'une durée d'une année, ce projet entend accompagner environ 50 jeunes femmes récemment diplômées, confrontées au chômage, en vue de favoriser leur insertion socio-économique. Les détails avec Marc Marofimbo.
Destiné aux femmes désœuvrées, ce projet les regroupera en petites coopératives selon leur secteur d'entrepreneuriat et prévoit du matoir, du coaching et un accompagnement à stage professionnel. Un projet salutaire selon Pascal Sinamouli, participante au lancement.
C'est une opportunité tellement attendue à la ville de Beni, surtout que c'est un projet communautaire, un projet qui parle de la résilience, qui vise le mentorat, qui vise l'autonomisation, la formation des jeunes filles. C'est vraiment un projet à soutenir.
Pour le chef de projet, l'autonomisation de la femme constitue un levier essentiel de la stabilité communautaire. Croyance Limousse explique.
Ce que nous essayons de résoudre, c'est d'abord autonomiser la femme. Ça veut dire que quand on va autonomiser la femme, on va résoudre non seulement la question du manque d'emploi, mais aussi les questions de chômage, mais aussi des questions qui sont liées, par exemple, que ce soit violence sexuelle, violence conjugale, parce que quand la femme aura aussi des capacités socio-économiques et des capacités financières, elle pourra se prendre en charge elle-même et ça va contribuer beaucoup dans le cadre de la paix, non seulement au niveau de la maison, mais au sein de la communauté.
Les projets à Manikouetou visent ainsi à réduire le chômage, à renforcer l'autonomie financière des femmes et à contribuer durablement à la paix et à la cohésion sociale dans la ville de Beni. Marc Maroufimbo, Beni, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, l'Office national de l'eau et l'assainissement, ONEA, peine à recouvrer près de 35 milliards de francs CFA d'arriérés de paiement des factures. Et pour y parvenir, elle fait appel à la brigade Lahabal, unité mixte de forces de sécurité et de défense mise en place pour restaurer l'ordre, la discipline et le civisme dans l'espace public.
L'invité.
Environ 5000 enfants en âge scolaire dans la ville de Bukavu courent le risque de ne pas étudier à cause de la précarité économique au sein des ménages, accentuée par la guerre. C'est le résultat d'une étude menée par une organisation locale intervenant dans le domaine de protection des droits de l'enfant. Le président du conseil d'administration de l'ASBL Initiative Emina Mwanda Plus, Emina Mwanda Sadi Kangulingo, dit « tire sur la sonnette d'alarme à l'endroit du gouvernement » et de la communauté humanitaire. Il s'entretient avec Jean Kassami.
Emina Mwandasani Kangolingoli, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean Kassami.
Votre ASBL vient de mener des enquêtes dont les résultats débouchent sur une situation désastreuse de déperdition scolaire dans la ville de Bukavu.
C'est un plaisir pour moi d'étaler la situation des enfants en âge scolaire se trouvant actuellement dans la rue de Bukavu. À votre micro. L'initiative Emina Mwanda a plus une association sans but lucratif a mené une enquête sur les causes de la présence des enfants en âge scolaire se trouvant sur la rue de Bukavu à partir du mois de décembre jusqu'à la fin du mois de février, soit un mois révolu. Les résultats de ces enquêtes donnent un résultat alarmant sur la déperdition scolaire des enfants à Bukavu, relevant plus de 5000 enfants, sont au risque d'abandon scolaire sur un effet en urgence.
Quelles sont les causes profondes d'une telle situation qui s'abat sur le secteur de l'éducation?
Comme cause, il y a la pauvreté, le chômage et la situation sécuritaire à l'intérieur de la province qui constitue actuellement un danger. En ce qui concerne la pauvreté, 50% des parents interrogés ont évoqué la pauvreté comme cause majeure d'abandon de leurs enfants. Et à cela s'ajoute le chômage des parents lié à la sécurité dégradante à l'intérieur de la province et la paralysie de certaines activités bancaires qui autrefois constituaient la seule source de revenus de certains parents. Et puis, il y a aussi la déperdition et la perturbation des réseaux Vodacom qui vient amplifier la situation beaucoup plus dans la zone, surtout dans cette période d'évaluation aux élèves de l'école secondaire.
Les conséquences d'abandon scolaire massif sont-elles prévisibles au sein de la société?
Les conséquences de déperdition scolaire sont graves. Notamment, il y a la délinquance et le banditisme. Les enfants qui abandonnent l'école sont plus susceptibles de se tourner vers la délinquance et le banditisme, la prostitution et l'émergence des phénomènes chimères. Il y a aussi l'exploitation des enfants à des fins commerciales car certains parents trouvent bon d'orienter leurs enfants dans des activités commerciales, ce qui expose ces enfants soit aux accidents ou soit à d'autres exploitations sexuelles.
Quelles sont alors vos recommandations?
Nous appelons les autorités compétentes, les organisations non gouvernementales et la communauté internationale à prendre des mesures urgentes pour créer des emplois pour les parents afin de permettre le parent de subvenir aux besoins scolaires des enfants, rendre momentanément l'éducation gratuite ou appuyer les organisations locales à vocation d'accompagnement des enfants tout en se référant à la Charte africaine des droits de l'enfant qui stipule que les enfants ont droit à l'éducation même en situation d'insécurité. Il y a aussi une autre alternative, messieurs les journalistes, fournir un soutien aux familles démunies afin d'aider les familles à subvenir aux besoins de leurs enfants. Ensemble, nous pouvons faire une différence pour les enfants de Bukavu et de ses environs en cette période, messieurs les journalistes, jeudi.
Éminent Mwandasani, nous vous disons merci.
C'est la fin de cette édition du journal coordonné et supervisé par Richard Junior Kamunga et mise en onde par Jean-Claude Nsala Mwanama Kengontswalo. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre site internet www.radiocapi.net.